L'uniforme du gendarme, c'est la France qui passe. C'est ce qu'affirme le colonel Michel en 1919. La mission du colonel Michel, c'est de réorganiser la gendarmerie dans l'Alsace-Lorraine, redevenue française. Et son projet, je le cite, c'est de faire des gendarmes de véritables éducateurs en matière d'observation des lois et des règlements et en contact étroit avec les populations. Autrement dit, c'est utiliser la capacité nationalisante de la gendarmerie pour remodeler le Reichsland. Eh bien, monsieur le directeur général, monsieur le président, mesdames et messieurs les diplomates et membres de la gendarmerie et des autres forces de sécurité, chers collègues, chers étudiants, mesdames, messieurs, eh bien, voici la première réponse à la question « Comment certains pays peuvent-ils vivre sans gendarmes ?» Parce qu'ils n'ont pas bénéficié du modèle français. La France, effectivement, est à l'origine des deux premiers temps forts de la diffusion des gendarmeries pendant la Révolution et l'Empire, puis pendant la colonisation au cours du second XIXe siècle. Mais avez-vous pensé à ce qui se serait peut-être passé sans les défaites françaises de la Bérézina et de Waterloo ? Peut-être un autre grand moment de l'histoire après celui de l'an 1000. Cet an 1000 si bien décrit par le moine Raoul Glaber, selon sa fameuse formule, et qui dit qu'il voit le monde entier se revêtir d'un vaste manteau d'église. Sans Waterloo, le monde aurait peut-être connu, au XIXe siècle, une autre version d'un autre moment, mais généré cette fois par l'Europe des Lumières. Un moment inauguré par la France de la Déclaration des droits de l'homme. Un moment prolongé par la France du Code civil. Un moment symbolisé par la devise laïque des étendards de la gendarmerie en 1791, « Force à la loi ». Un moment de l'histoire du monde, enfin, qui aurait pu être, sans Waterloo, incarné dans un réseau continu de brigades, de la Sibérie au Maroc jusqu'à Madagascar. Mais l'histoire a été un peu différente. Et les chercheurs l'étudient autrement car ils tiennent compte des problématiques qui renouvellent l'histoire des polices et de la gendarmerie. Par exemple, ce que nous appelons l'histoire globale et connectée, les études postcoloniales, l'histoire des représentations, l'analyse des interactions entre les différentes forces de l'ordre et entre ces forces et la population, l'étude de la circulation internationale des savoirs policiers et aussi les recherches sur les éventuels systèmes policiers. Si l'histoire des gendarmeries restait à l'écart de ces problématiques, elle sous-estimerait son objet d'étude. Car tous ces nouveaux regards ouvrent de nouvelles pistes. La diffusion du modèle gendarmique, par exemple, ne se fait pas à partir d'un seul foyer, mais de plusieurs, que l'on songe à la Guardia Civile ou bien aux carabiniers. Les circuits sont multiples. Comment des officiers danois ou suédois peuvent-ils introduire au Siam ou en Iran une gendarmerie qui n'existe pas chez eux ? Est-ce que la France a pensé à demander des droits de copyright ? D'autre part, les complexes de l'implantation sont très variés. Enfin et surtout, la notion de modèle doit être précisée. Cette notion inspire des interrogations sur les caractéristiques des corps d'origine en France et dans certains pays européens. Le statut militaire, bien sûr, les brigades territoriales polyvalentes, les formations spécialisées, par exemple pour le maintien de l'ordre, le légalisme, la dualité des missions civiles et militaires, et qu'on pense à l'importance de la police prévôtale. Mais ces interrogations sur ces caractéristiques des gendarmeries ne signifie pas que les historiens universitaires oublient que ces institutions ne sont pas intemporelles ou bien qu'ils confondent études internationales et classements internationaux. L'objectif de ce colloque n'est pas du tout d'évaluer les gendarmeries à partir d'une matrice européenne immuable. Et pour au moins trois raisons que j'illustrerai en raisonnant seulement sur le cas français pour éviter toute ambiguïté. D'abord, car le prototype gendarmique français ne se laisse pas enfermer dans une définition figée. Écoutons par exemple nos contemporains de la fin, enfin plus exactement les contemporains de la fin du XIXe siècle. Un député. Les gendarmes, au lieu d'être sur les routes, à la place qui est la leur, sont retenus dans leur bureau pour faire une paperasserie inutile. Un journaliste du Figaro. Notre gendarmerie est tout entière à réformer. Un journal de gendarmes retraités. Il faut qu'on rende enfin les gendarmes à la gendarmerie. En fait, depuis sa création, la gendarmerie évolue. Elle se cherche, elle doute, elle est parfois contestée, elle se transforme, mais elle fonctionne. La deuxième raison pour laquelle l'histoire des diffusions des gendarmeries n'est pas l'histoire d'une entreprise de copier, coller, et même dans un contexte colonial, c'est que ni le copier, ni le coller ne sont systématiques. Ce qui est passionnant ici, c'est que la copie est plus ou moins sélective. Pourquoi retrouve-t-on à l'étranger telle organisation particulière, telle mission et pas d'autre ? Ce qui est passionnant, c'est que le collage est partiel et c'est qu'il est aussi adapté. Ce qui est passionnant, c'est le collage revu et corrigé en fonction des traditions politiques, culturelles et policières locales. Que l'on songe ici, par exemple, aux auxiliaires de la gendarmerie, si mal connus, à l'image des cipayes de nos lointains comptoirs indiens. Ce qui est passionnant, c'est le collage qui ne tient pas. C'est le rejet de l'emprunt ou de la greffe, un an, voire 100 ans plus tard. Le gendarme Bonne Maison, qui est installé en Guadeloupe au début du siècle, résume bien la complexité de la circulation des modèles policiers dans une lettre qu'il envoie à ses parents en 1900. Voici ce qu'il écrit. « Nos casernes ne ressemblent en rien à ce que l'on voit en France. Sans l'inscription réglementaire, on la devine, hein, gendarmerie coloniale, jamais un Européen ne se douterait de ce que c'est. » La troisième raison pour laquelle nous n'allons pas nous limiter à l'étude d'un transfert, c'est parce que le renouvellement de la recherche nous pousse vers l'étude de ce que l'on appelle les effets-retours. Effets-retours sur les mécanismes du pouvoir en Occident, selon la formule de Michel Foucault, donc sur le fonctionnement des gendarmeries métropolitaines. Mais aussi effets-retours sur ceux qui donnent corps à la gendarmerie. Accompagnons le gendarme Baptiste Bernardin dans ses tournées dans la campagne normande en 1888. De quoi nous parle-t-il ? Du Tonkin, encore du Tonkin, et toujours du Tonkin. Avant de conclure, le souvenir de mes 2 années passées là-bas restera à jamais gravé dans ma mémoire. Deuxième réponse à la question « Comment peut-on vivre sans gendarmes ?» Eh bien, avec toutes sortes de policiers. C'est une aubaine pour le chercheur. C'est une aubaine pour le chercheur car tout historien de la sécurité aime tellement les forces de l'ordre qu'il est ravi d'en rencontrer plusieurs. Et dans le cas français, et au niveau national depuis 1941, au moins 2 de ces forces, bien distinctes, avec leur culture et leurs pratiques spécifiques, qui méritent le même intérêt scientifique, ce qui explique l'élargissement du chantier de la Sorbonne à l'histoire de la police nationale. Quand il est exclusif, ce choix d'une police civile n'est pas neutre, comme l'explique le roi de Suède, un visiteur étranger, je le cite, en 1829. Voyez l'heureuse situation de mon pays. Vous n'y rencontrerez pas un seul gendarme. Mon peuple est moral, heureux, paisible. J'ai bien dit que nous sommes en 1829. 1829, c'est aussi l'année de la création à Londres de la Metropolitan Police, une New Police, selon son créateur, Robert Peel. Une new police, par opposition à l'organisation française avec un ministère, donc avec une centralisation et une force militarisée. Alors, les historiens, notamment l'historien anglais, ont depuis longtemps analysé la réalité de cette nouvelle police anglaise. Il n'empêche que dès le XIXe siècle, son audience et celle de ses débonnaires bobbies est considérable dans l'imaginaire international, et notamment dans plusieurs pays anglo-saxons. D'où la question, ces pays sont-ils imperméables à la gendarmerie ? Comment certains pays peuvent-ils vivre sans gendarmes? Eh bien, ma troisième réponse sera une hypothèse suggérée par l'histoire des représentations, mais une hypothèse que je laisse mon jeune collègue creuser, lui qui vit dans des pays peuplés de gendarmes. Et dans les autres? Eh bien, dans les autres, on n'applaudit pas Guignol en train de rosser Pandore. Dans les autres, on ne s'émeut pas devant le combat de George Sand contre les puces de la brigade où elle doit coucher en 1846, car, écrit-elle à l'un de ses amis, c'est féroce la puce de gendarme. Ça porte un sabre et des buffleteries. Dans ces pays, on ne fredonne pas avec Annie Cordy. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas fredonner. J'ai un gendarme dans ma vie. Dans ces pays, enfin, on est privé de la bande dessinée de Jean Fèvre et Sulpice. Comment peut-on vivre sans gendarme? Eh bien, monsieur le directeur général, monsieur le président, mesdames, messieurs, une réponse possible avec beaucoup d'ennuis. Je vous remercie.